Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
C'est bon, hein?
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aime lire des livres aux jeunes enfants. J'aime la qualité des silences quand je marque une pause et l'attention extraordinaire qu'ils prêtent aux images. Je les vois plonger dans les illustrations du livre et il est évident que dans leur tête, un film à grand spectacle se fabrique en temps réel. Mais, j'ose l'avouer, parfois je saute quelques lignes. Parce que le livre est un peu long, parce qu'on m'attend pour l'apéro, que sais-je. Je pratique l'ellipse discrète. Et puis un jour arrive le moment tant redouté, l'enfant le remarque. T'as oublié une phrase ? La honte, c'est qu'il connaît le bouquin par cœur à force, ou alors il sait lire désormais et il suit le texte pendant que je raconte. Maintenant qu'il sait lire, ce ne sera plus la peine de lui lire des histoires, ai-je pensé. Mais quelle erreur ! Pourquoi devrait-on s'arrêter ? Pourquoi se priver de ces moments hors du temps ? La lecture à voix haute a bien des vertus. Le succès des livres audio est un indice, celui des lectures publiques aussi. Il se passe quelque chose, assurément, quand un écrivain ou une écrivaine lit des extraits de son roman devant un public. Mais que se passe-t-il précisément ? Voilà la question toute simple, la question immense que l'on se pose ce matin. C'est parti, lire à voix haute.
Dorothée Barba sur France Inter.
Et j'ai le grand plaisir d'accueillir deux invités en direct. Deux autres nous rejoindront en cours d'émission. Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour.
Bienvenue, romancière pour les enfants et pour les adultes, lauréate du prix du Livre Inter en 2014 avec Jacob Jacob. Votre premier roman, En retard pour la guerre, a été réédité cette année aux éditions de l'Olivier. Vous êtes également scénariste et traductrice. C'est vous qui avez traduit en français les romans d'Aaron Appelfeld, écrivain israélien. Est-ce que vous aimez lire des histoires aux enfants, Valérie Zenati?
Ah, j'adore ça. Oui. Alors, j'ai moins l'occasion ces derniers temps, justement parce que mes enfants sont bien grands. Mais j'ai souvenir de ces moments de voyage, même en avion, où je me retrouvais avec six ou sept enfants autour de moi, parce que je sortais un livre, je commençais à lire au mien, et puis les enfants affluaient comme ça. C'était un petit peu laisser venir à moi les petits enfants dans une autre version, dans la version et écouter des histoires.
Vous marquiez des silences aussi?
Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs techniques que j'ai. C'est à la crèche d'un de mes enfants que j'ai. Je me souviens très très bien de deux éducatrices qui avaient des manières totalement différentes de lire. Ouais. L'une de façon presque atonale, elle laissait toute la place au texte, si j'ose dire, sans aucune interprétation et en faisant des silences. Et l'autre qui jouait carrément dans sa lecture. Et je me suis un peu inspirée de tout ce que j'entends. Et puis, lorsque je lis à voix haute, j'entends surtout ma voix intérieure, je crois.
Une autre écrivaine est en ligne avec nous pour échanger sur ce vaste sujet de la lecture à voix haute. Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, autrice notamment de Réparer les vivants et de Naissance d'un pont. Votre dernier livre, Canoë, apparu chez Vertical il y a quelques semaines, ce sont des histoires de voix. Un recueil de 8 nouvelles qui toutes tournent autour de la voix humaine, son timbre, sa tessiture, ses inflexions. Est-ce que vous avez lu ce livre à voix haute pendant que vous l'écriviez, Maëlys de Kerangal?
Oui, alors moi j'écris en lisant à voix haute, c'est-à-dire que la lecture intervient, l'oralité. Alors l'oralité intervient beaucoup dans l'écriture, c'est-à-dire que j'écris et puis régulièrement je regarde, enfin j'écoute, j'essaie de voir comment ça sonne, je stabilise les textes à haute voix. Enfin il n'y a pas d'écriture sans lecture. La lecture est complètement incorporée à l'acte d'écrire. C'est un va-et-vient permanent, un peu comme des vases communicants finalement. Mmh. Vous voyez, je le fais tout le temps. Donc au final, bien sûr, je l'ai lu. J'ai lu Canoë plusieurs fois à voix haute je l'ai même lu aussi en lecture publique. Enfin, j'ai lu des nouvelles de sur scène en lecture publique, mais ce recueil, je l'ai lu plusieurs fois en l'écrivant.
Nous allons parler ensemble donc de la place de la lecture à voix haute dans votre processus de création, mais aussi de ces lectures publiques, des rencontres avec vos lecteurs et lectrices. Et puis nous serons en ligne dans un instant avec un garçon de 17 ans, c'est lui qui a gagné le concours de lecture à voix haute organisé par France 5. Intervenez vous aussi, chers auditeurs et auditrices, dites-nous si vous aimez ça, lire à voix haute, quelle expérience de lecture la voix apporte-t-elle? Vous nous écrivez sur le site ou sur l'application France Inter. C'est l'été comme jamais, jusqu'à 10h sur Inter avec Maïlys de Kirangan et Valérie Zenati.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche, le cœur toujours percé par ta flèche. Un peu sèche, ça tourne, ça tangue, mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, je n'avais pas bien vu.
Benjamin Biolay sur France Inter, la lecture à voix haute au cœur de l'été comme jamais ce matin, avec deux écrivaines, Valérie Zenati et Maïlys de Kerangal. Et je tenais d'abord à féliciter Gaspard. Bonjour Gaspard Bardel.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez 17 ans et vous étiez cette année en classe de terminale à Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire. Vous avez gagné le concours de lecture à voix haute sur France 5 animé par François Bunel. C'est un télécrochet littéraire en quelque sorte avec des collégiens et des lycéens. On va d'abord écouter l'une de vos prestations. Voici un extrait de La pleurante des rues de Prague, roman de Sylvie Germain.
Il dansait, le cygne. Il dansait au ras de l'eau, à fleur de nuit, au cœur de la ville, si proche des humains et cependant si étranger. Il dansait, touché au plus profond de sa chair animale, de sa chair de vivant, par un émoi bien plus puissant, bien plus troublant encore que celui du désir. C'était l'émoi d'avoir traversé le corps de la géante immatérielle. Son torse de pleurante séculaire. C'était l'émoi d'avoir senti s'irradier en lui le mystère de la pitié pour toute chair de vivant, qu'elle soit d'homme ou d'animal. C'était le fol émoi d'appartenir à la communauté des vivants, toute race mêlée.
Les pleurantes de Prague de Sylvie Germain. Alors il faut s'imaginer ce que c'est de lire un livre à voix haute sur un plateau de télévision devant un jury. Bravo à vous Gaspard. Donc dans quel état étiez-vous ?
Alors, avant de passer très stressé, évidemment, quand on se retrouve sous les projecteurs comme ça, c'est assez intimidant, surtout avec un jury composé d'écrivains et d'écrivaines.
Voilà, il y avait Cécile Coulon, notamment, Éric-Emmanuel Schmitt, Gaël Faye et Clara Dupont-Mono.
Clara Dupont-Mono, voilà. Mais bon, une fois que c'est un truc complètement dingue, une fois que j'y étais, tout s'est fait naturellement, j'ai plus aucun stress, voilà, tout s'est enchaîné parfaitement.
Vous avez été aidé par un comédien, par Guillaume de Tonquédec, qui était votre coach pour épauler certains candidats. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Quels conseils vous a-t-il donné?
Alors, il m'a beaucoup apporté, il m'a pas donné de conseils techniques précis. Il m'a pas dit comment faire absolument certains passages, mais il m'a plutôt fait m'identifier au personnage. Comment dire ? Il m'a mis en situation. Il a rapporté la situation du livre par rapport à la mienne. Mmh. Il m'a dit : imagine-toi, eh bien dans cette situation. Comment est-ce que toi tu l'aurais dit ? Comment est-ce que tu l'aurais fait ? Comment est-ce que tu l'aurais ressenti ? Voilà. Donc comment est-ce que tu aurais regardé ces personnes aussi ?
Donc pour vous, c'est aussi bien, c'est autant une interprétation qu'une lecture à voix haute.
Ah bien sûr, ouais. La lecture, en vérité, il y a mille façons de lire un texte et c'est sûr que la personne qui le lit, il met beaucoup de son interprétation personnelle en fait.
Vous avez aussi lu un extrait d'un recueil de Jean-Pierre Siméon, Stabat Mater Furiosa, qui est un texte en fait à mi-chemin entre le théâtre et la poésie. Je me demandais quel souvenir d'élève vous avez des poèmes qu'on récite en classe, Gaspard.
Quel souvenir d'élève, ouais. Alors les poèmes, je me souviens bien sûr en avoir appris par cœur, évidemment. À l'école primaire, forcément La Fontaine, et puis au collège avec Victor Hugo. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait frappé tout de suite. Voilà, je m'étais pas rendu compte de tout ce que ça pouvait représenter.
Et là, la lecture à voix haute pour ce concours de France 5, ça vous a apporté une autre expérience de l'oralité et de la littérature?
Bah, c'était une sorte de révélation du pouvoir. Oui, bien sûr. Du pouvoir qu'avait la littérature. Alors je disais déjà, hein, mais c'est vrai que je soupçonnais pas qu'on puisse faire de l'oralité avec la littérature de cette manière. Et voilà, découvrir un texte sous cet angle, ça permet de découvrir de nouvelles subtilités, de nouveaux recoins qu'on soupçonnait pas. Et ça permet d'apprécier encore mieux la littérature. Voilà.
Je vais peut-être donner la parole à Maëlys de Kerangal. Quel regard sur cette interprétation d'un roman? Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation?
Alors, j'ai de l'extrait que j'ai entendu là de Gaspard, vous voulez dire?
Oui, bien sûr.
J'ai trouvé du coup que c'était très très personnel, notamment le silence que j'ai entendu avant Étranger. Vous voyez la chute qui est arrivée après. On voit bien que sa voix remodèle totalement le texte et lui confère un sens propre. Ce qui d'ailleurs, je trouve, a tendance à faire presque de la lecture à voix haute un art vivant. Et c'est là où se conjugue aussi peut-être une forme de théâtralisation, de théâtre en tout cas, et de littérature. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on voit bien que des acteurs lisent des textes littéraires de la même manière que des auteurs viennent lire leurs textes sur scène. Il y a une espèce de va-et-vient qui s'est quand même beaucoup intensifié ces dernières années entre les deux places. Et ça c'est intéressant parce que la lecture à voix haute, c'est aussi, et je parle là de lecture publique, mais ça vaut aussi pour ce dont vous parliez avec Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de lire dans l'intimité d'une famille ou pourquoi pas dans un avion. C'est que la lecture à voix haute, c'est une autre façon de partager la littérature. Et ça, c'est une autre manière et à mon avis assez nouvelle et qui renoue avec autre chose, parce que la lecture silencieuse, elle est historiquement datée, elle est récente. On a d'abord lu à voix haute, je veux dire, dans les monastères, mais c'était des discours. Et ce qui m'impressionne, par exemple, là, dans ce qu'on a entendu de la prestation de Gaspard, c'est qu'on lit à voix haute du roman, c'est-à-dire des textes narratifs. Et ça n'est plus réservé à des textes d'une autre nature qui seraient des textes les discours, par exemple, les discours ou les grands textes, je sais pas, les textes religieux, d'édification, etc. En tout cas, les textes qui ont une nature de discours, ou alors la poésie qui, elle, a quand même un statut différent. La poésie, on la déclame, on la profère, vous voyez, elle avait quand même, il y a immédiatement dans la poésie, peut-être une notion de sonorité quand on écoute la voix d'Apollinaire qui est enregistrée quand on la télécharge parce qu'on peut la télécharger via les archives et qu'on l'entend lire par exemple sous le pont Mirabeau etc. On voit bien qu'il y a une force de la parole poétique qui s'instaure et ce qui est impressionnant c'est que la lecture à voix haute a attrapé le roman maintenant, c'est-à-dire des textes plus narratifs et ça je trouve que c'est assez différent et c'est vrai que c'est une autre façon de diffuser, de partager et d'exposer aussi la littérature. C'est vraiment l'idée de l'exposer quand elle est en public, c'est la littérature exposée, ça c'est assez intéressant, elle est donnée à voir et à entendre publiquement, il y a autre chose qui se passe.
Voilà, la lecture à voix haute a attrapé le roman et vous faites partie, Gaspard Bardel, de ce très beau mouvement lauréat donc du concours Et si on lisait à voix haute sur France 5. Encore bravo à vous, merci d'avoir participé à cette émission et bonne journée Gaspard.
Merci, au revoir.
Valérie Zénatis, bravo. Valérie Zénatis, c'est quelque chose quand même, à 17 ans, de se pointer sur un plateau télé et de déclamer ainsi un roman.
Ah oui, totalement. Et puis c'était, enfin, je suis très admirative. Mais c'est vrai ce que dit Maëlys, c'est que depuis quelques années, il y a une vraie révolution de la pratique en France. Ben moi, quand j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années, tout le monde disait oui, en Allemagne, il y a beaucoup de lectures, les Allemands vont aux lectures et payent même pour entendre une lecture littéraire. Et en France, ça se faisait très peu, il y a une vingtaine d'années. Et puis il y a eu toutes sortes de festivals, comme les correspondances de Manosque, notamment, qui ont vraiment offert cette possibilité d'entendre le texte dit ou lu par les auteurs ou par des comédiens. Et puis les Français s'y sont mis. Et mon expérience me fait constater que, effectivement, c'est une autre façon de vivre la littérature, parce que on est, comme le disait Maëlys, dans le partage, on n'est plus dans la solitude entre soi et le texte. Je pense qu'il y a trois voix quand il y a une lecture à voix haute. Il y a la voix de l'écrivain, la voix de celui qui lit, même si c'est l'écrivain, c'est sa voix de lecteur, et la voix entendue, qui n'est pas exactement la même. Et ce que je voulais dire, c'est que cette pratique, qui longtemps a été décriée peut-être en France de la lecture à voix haute, parce qu'elle était associée peut-être à la paresse.
Oui, c'est moins d'effort de s'entendre lire quelque chose que de le lire soi-même.
Oui, c'est-à-dire que quand on reprend le cours des choses, on dit bon, ben on lit aux enfants, et puis ensuite ils savent lire.
Donc ils le font tout seuls.
Or, dans la lecture à voix haute, il y a, quel que soit l'âge, une sensualité qui n'existe pas de la même manière lorsque dans la lecture silencieuse. Il y a aussi une forme de contrainte, parce que dans la lecture à voix haute, le temps et le tempo vous sont imposés. Et ça, pour moi, c'est la grande différence. Quand on lit seul, on ouvre un livre, on a le loisir de lire très vite, plus lentement, de s'arrêter sur une phrase. Lorsqu'on vous lit une histoire, vous ne maîtrisez plus le temps de la même manière. Voilà.
La crise sanitaire a eu pour effet inattendu de valoriser la lecture à voix haute. Les salles de spectacle fermées au public étaient nombreuses à proposer des lectures en vidéo, parfois même en direct. Voici ce qu'on a pu entendre, par exemple, sur le site de la Comédie Française.
Un jour, ma mère me dit « Puisque tu parles toujours de Madame de Guermantes, comme le docteur Percepied l'a très bien soignée il y a 4 ans, elle doit venir à Combray pour y assister au mariage de sa fille. Tu pourras l'apercevoir à la cérémonie. » C'était du reste par le docteur Percepied que j'avais le plus entendu parler de Madame de Guermantes. Et il nous avait même montré le numéro d'une revue illustrée où elle était représentée dans le costume qu'elle portait à un bal travesti chez la princesse de Léon. Tout d'un coup, pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant me permit de voir assise dans une chapelle une dame blonde avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Je me dis, cette dame ressemble à Madame de Guermantes.
À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, lu par Denis Podalydès de la Comédie Française. Maëlys de Kerangal, j'étais frappée en écoutant cet extrait par la présence des couleurs. Est-ce que la visualisation, qui est quelque chose de naturel quand on lit un livre, on visualise la scène, est-ce qu'elle est encore plus forte quand on écoute quelqu'un qui nous lit un livre ?
Oui, c'est justement ce dont je voulais parler, c'est-à-dire que pour l'auditeur d'une lecture à voix haute, il y a quand même tout cet effort presque aussi de visualisation, mais d'autre chose. Enfin, il y a toute une convocation de tous les sens ensemble et un effort d'imagination qui est incroyable. C'est-à-dire que il faut quand même se représenter. Par exemple, là, en plus, c'est un texte de Proust. La phrase de Proust, quand elle se donne à voir sur une page, elle est assez impressionnante. Et là, on voit l'apport de Podalydès dans sa manière de lire, qui est aussi de finalement la traduire immédiatement, de la décrypter, et puis de relever, de faire ressortir peut-être l'ossature, la structure, l'architecture de la phrase. Et c'est vrai que on voit bien le rôle de la visualisation, notamment là, le costume de Madame de Guermantes, mais toutes les couleurs que l'on doit se représenter. Et je me suis souvent demandé pourquoi, les lectures à voix haute, comme le disait Valérie, elles sont souvent assez calibrées sur entre une heure et quart, rarement plus longues que ça. Parce qu'en fait, c'est un effort d'imagination, de concentration, presque, j'allais dire, de synesthésie, quoi. C'est tous les sens ensemble, pour se représenter et imaginer ce qui est lu. Et c'est vrai que la visualisation est peut-être le premier des sens, enfin, qui est convoqué. Et je trouve que ça, c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'il faut on peut être effectivement envoûté, bercé, emporté, mais il y a aussi quand même l'idée qu'il faut se concentrer longtemps, parce que c'est quelque chose, surtout, je reviens sur cette idée-là, surtout sur des textes qui sont romanesques, c'est-à-dire qui n'ont pas été écrits a priori
pour être déclamés,
pour être lus à voix haute.
Est-ce que l'idée, l'ambition, à votre avis, c'est qu'ensuite on ait envie de lire soi-même Proust, ou alors la question n'est pas là, Maëlys de Kerangal ?
Je pense que la question est pas là. Je pense que on pourrait écouter la lecture de Denis Podalydès comme une espèce de grande initiation,
une démocratisation de la littérature,
oui,
peut-être.
Voilà, l'idée que tout le monde y a accès et qui nous. Mais je pense surtout que là, on est aussi dans un. C'est très proche pour moi de l'art vivant, parce qu'évidemment, lui, il lit Proust. Je repense à ce que disait Gaspard, c'est-à-dire que finalement, quand on interroge quelqu'un sur plusieurs personnes sur un même livre, souvent les avis sont différents. On voit bien qu'il y a une lecture par lecteur, enfin voilà, toute cette histoire de grande subjectivité de la littérature, et on voit bien que finalement ça se répercute aussi dans la lecture à voix haute, et que l'auteur il donne finalement aussi une interprétation. Pour moi, ce que ça dit, ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi la lecture comme un art vivant, c'est-à-dire on voit bien que l'élocution, la conscience du rythme, la conscience aussi de la vocalité, pour le coup, hein, les moments où la voix change de hauteur, là c'est assez admirable, hein, ce qu'on vient d'entendre, les changements, la nuance surtout, qui est vraiment pour le coup l'art proustien par excellence, c'est-à-dire on voit bien le moment où la phrase se hausse, descend, la notion d'aparté aussi dans la littérature de Proust, là on le voit très bien, la manière dont les paroles de la mère sont à l'intérieur de la phrase, etc. Je pense que c'est vrai qu'il y a une question d'art vivant, et je trouve que parfois, peut-être qu'on n'aura jamais lu Proust par soi-même, mais on l'aura entendu, et c'est déjà finalement, c'est déjà quelque chose, et je trouve que c'est vraiment important, en fait.
Écoutons une auditrice à présent. Bénédicte a laissé une note vocale sur l'application France Inter.
Oui, bonjour. J'ai eu une expérience en cinquième. J'avais demandé à mes élèves de lire la nouvelle de Roald Dahl, Lamb to the Slaughter, en anglais, afin qu'on travaille dessus après, et je me suis rendu compte que plusieurs d'entre eux l'avaient pas lu. Donc avant de commencer le travail, je me suis dit, je vais leur lire. Donc j'ai lu en anglais cette nouvelle en entier. Donc je sais très bien qu'ils comprenaient pas tous les mots, qu'ils avaient pas tout le vocabulaire nécessaire. Mais il y avait un vrai silence dans la classe, et à la fin, ils ont applaudi. Et j'ai trouvé que c'était quand même incroyable. C'était juste cet exercice de lecture qui avait fait qu'ils aient applaudi à la fin.
Très joli témoignage. Ça fait toujours de l'effet, Valérie Zenati, quel que soit l'âge du public, quand on lit une histoire.
Oui, ça fait toujours de l'effet. Moi, il m'arrive d'intervenir en milieu scolaire et de m'apercevoir que pour certains élèves, la discussion sur un texte est difficile. En revanche, l'écoute du texte est un plaisir. Pour tous, c'est très très rare que quelqu'un n'aime pas écouter des histoires. Après, je voulais dire aussi que parfois, la lecture, il me semble, hein, est aussi un moyen de donner une amplitude au texte qu'il n'a pas toujours.
Encore mieux que la lecture dans sa tête.
Alors voilà, c'est différent en tout cas, mais c'est pas du tout pour parler d'aspect forcément négatif, mais il me semble parfois que dans les lectures, certains viennent écouter tel acteur qui va lire, mais pas forcément
le texte.
Alors ça permet une découverte du texte, mais c'est pas le cas de Proust évidemment. Parfois aussi, les acteurs sont capables de donner effectivement des couleurs, une résonance à un texte qu'il la trouve, mais qu'il n'a pas de cette manière-là, c'est-à-dire d'embellir en quelque sorte. Et pourquoi pas ? Et
est-ce que parfois on peut gâcher un texte, Valérie Zenati, en cabotinant trop, en interprétant trop, en faisant dire au texte ce qu'il ne dit pas ?
Totalement. En parlant des aspects négatifs, parfois, alors c'est comme en musique, hein, ce sont des interprétations, donc on aime ou on n'aime pas telle interprétation. Enfin, on y est sensible ou pas. Moi, je trouve que certains textes, parfois, sont desservis par totalement subjectif, mais par l'outrance ou par tout simplement une tonalité un peu à côté de la plaque peut-être.
Nous parlons de lecture à voix haute ce matin avec Maëlys de Kerangal et Valérie Zenati, et on va accueillir un slameur dans un instant.
1, 2, 3, 4. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo inverno, passo verão. Quando você vejo a lua e as estrelas, e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas, sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Meu amor não tem perfume, meu amor não tem razão, meu amor sem artifício. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo inverno, passo verão, mas você não vê.
C'était Dom Lanena sur France Inter. Vous écoutez L'été comme jamais. Valérie Zenati et Maëlys de Kerangal sont mes deux invités. Nous parlons de lecture à voix haute ce matin. Vous participez régulièrement, Maëlys de Kerangal, à des lectures publiques. Que viennent chercher les gens dans le public, à votre avis?
Je pense qu'ils viennent chercher le texte. Et la voix de l'auteur aussi, parce qu'en fait c'est aussi un autre truc quand c'est l'auteur lui-même qui dit son propre texte. on a peut-être l'impression qu'on pourrait accéder à une forme de représentation initiale, enfin, voyez, de rapport initial au texte, c'est-à-dire que ça ne serait pas, justement, on n'est pas dans l'interprétation, le texte est comme il est, si l'auteur le lit. J'en suis pas si sûre, mais je crois que quand l'auteur lit son texte, c'est encore autre chose. Là. C'est-à-dire que là, il y a une idée de, voyez, une idée de première main, quoi.
C'est ça.
Alors, il y a de la curiosité, il y a aussi peut-être entendre le texte comme il a été écrit.
Oui, puisque vous le lisez à voix haute en l'écrivant, justement, vous le disiez tout à l'heure.
Et d'ailleurs, parfois, je me dis que quand je l'écris, je règle la ponctuation à voix haute, et parfois je le relis, je peux être amenée à le lire plusieurs longtemps après, parfois plusieurs années plus tard, et je vois bien que, vous voyez, j'ai changé, le texte il est un peu étranger, c'est-à-dire qu'il est plus la ponctuation ou même le rythme, j'arrive plus à retrouver forcément le rythme dans lequel je l'avais écrit, les choses ont bougé, je sais pas, il y a du temps à passer, et finalement il y a quelque chose qui s'est déplacé, et ça me faisait sourire et ça m'intriguait pas mal. Je me disais, mais j'arrive pas à retrouver voilà, cette virgule-là, pourtant elle marchait bien là, etc.
Retrouver une virgule, c'est quelque chose.
Non, mais c'est vrai que je pense que cette idée d'entendre le texte comme il a été écrit, avec quelque chose d'initial, comme une espèce de, voilà, d'initiation à quelque chose de premier temps, de première main, de première écoute d'un texte, c'est un peu ce que viennent chercher le public, à la différence de quand on vient écouter un acteur lire des textes littéraires. Là, je pense qu'on va regarder aussi
l'interprétation,
la curiosité pour l'acteur. Mais ce qui est beau aussi, je voudrais quand même le dire, c'est ce qui est intéressant, c'est la question du corps, parce que c'est vrai que en travaillant là justement sur les voix, on sait que la voix c'est vraiment un organe, c'est physique, c'est du muscle, que la voix c'est immédiatement du corps. Et ce qui est vraiment fort, je pense, c'est l'incarnation de la littérature quand elle est donnée à voix haute en public. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a vraiment cette idée d'incarnation. Il y a un corps qui va porter une parole, et il y a une spatialisation du texte dans la salle ou sur la place où il est lu, mais il est aussi porté par un corps qui va bouger, qui peut s'accompagner de gestes. Il y a aussi les expressions du visage, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a quelque chose de très incarné, de très vivant, ce qui fait que des signes finalement abstraits sur une page blanche qui forment, voilà, des mots, puis des phrases, puis des pages, tout d'un coup deviennent quelque chose de totalement physique, corporel et de totalement sensible. Et je pense que cette espèce de transmutation, elle est désirable aussi beaucoup pour ceux qui viennent l'écouter, c'est-à-dire voir ce que c'est qu'un texte vivant. C'est pour ça que cette histoire d'art vivant revient pas mal en ce moment quand je réfléchis à cette idée de lecture à voix haute, cette idée d'incarnation de la littérature.
Nous allons parler du corps justement avec Capitaine Alexandre qui nous rejoint. Bonjour à vous.
Bonjour.
Marc-Alexandre Ohobambé à l'état civil. Capitaine Alexandre, c'est votre nom de scène. Vous êtes écrivain, poète et slameur, membre du collectif On a slamé sur la lune. Votre dernier roman, Les Lumières d'Oujda, est publié chez Calman Lévy. C'est un roman que vous portez beaucoup sur scène, Capitaine Alexandre. Est-ce que la lecture à voix haute engage tout votre corps?
Plus que ça, même plus que ça, elle engage tout mon être par le simple fait. D'ailleurs, je voudrais me dire le simple fait d'être dans l'instant, de partage et dans l'émotion du moment et d'y aller complètement. En fait, quand on porte un texte, il y a vraiment cette idée-là dans la manière dont je suis arrivé à la lecture à voix haute et peut-être même à la littérature. Il y a l'idée de s'engager entièrement, corps, cœur et âme, en fait.
Votre façon de lire, de déclamer, de dire sur scène a-t-elle changé avec les années, avec la pratique, Capitaine Alexandre?
Oui, elle a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en dedans. Il y a les premières années, alors je suis arrivé très tôt à la manière de dire ou de lire en public, de lire à voix haute, par la musique d'abord, par le rap, et ensuite le slam, et ensuite des expériences au théâtre ou dans d'autres projets un peu hybrides. Et ce qui a bougé, c'est surtout le fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, je pense, je sais que pour dire un texte, par exemple, de révolte, un texte de colère, je suis pas obligé de le dire de manière explosive. Et j'ai réalisé aussi, grâce aux années, grâce à la pratique, qu'il n'y a rien de plus puissant que la douceur, en fait, pour passer un message, pour passer une émotion. Et quelle que soit cette émotion derrière, derrière le texte, en fait. Et ça, ça a bougé grâce à la pratique, grâce au miracle aussi de l'altérité, à la rencontre avec l'autre, à la rencontre avec les autres, en fait.
Est-ce que tous les textes, à votre avis, sont conçus pour être lus, ou est-ce que la poésie a un statut à part ?
Alors, je vais certainement répondre que la poésie a un statut à part, mais je pense que tous les textes, en tout cas, sont faits pour être partagés, parce qu'on n'écrit pas pour soi, quel que soit le genre de faire, il y a quelque chose chez moi, mentalement, qui est porté vers le partage des mots. En fait. Ça tient encore une fois à la manière dont la littérature m'est tombée dessus. Grâce au cercle de littérature poétique,
bon, alors, on vous. Les textes je dois vous interrompre, malheureusement, la qualité de la liaison est assez basse. On vous entend assez mal, capitaine Alexandre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les Lumières d'Oujda de Marc-Alexandre Haut-Bambé est à lire chez Kalman Levy. Très bonne journée à vous. Et à bientôt, au capitaine, mon capitaine. Très bonne journée.
Merci, au revoir.
Lecture à voix haute, donc c'est notre sujet avec Maëlys de Kerangal et Valérie Zenati. Vous faites, je crois, une expérience de sondage à main levée, Valérie Zenati, quand vous participez dans les collèges et lycées.
Oui, il m'arrive de faire des rencontres spécifiquement autour de la lecture et je me souviens très bien, il y a 3 ans, je suis entrée avec 4 classes et puis on était là pour parler de la lecture, pas de littérature mais du processus de lecture, de mes lectures, de mon amour de la lecture par exemple. Et donc je suis entrée en disant qui dans cette salle aime lire un livre pour le plaisir. Il y avait 100 de lycéens, et sur la 100 de lycéens, je sais pas, il y en a 8 qui ont levé la main pour dire qu'ils aimaient lire pour leur plaisir et non contraint. Et j'ai posé une deuxième question en disant qui se souvient avoir aimé qu'on lui lise des histoires enfants. Et là, les 100 mains se sont levées. Et donc c'était vraiment très frappant parce que c'était, je pense, le témoignage de la distinction réelle entre la transmission orale et la transmission écrite.
On a aimé qu'on nous lise des histoires quand on était petit et on n'aime pas forcément lire aujourd'hui quand on est adolescent ou jeune adulte. C'est ce que vous faites comme constat à ce moment-là.
Je pense qu'en fait, quand on aime écouter des histoires, on n'a pas c'est pas un rapport à la littérature telle qu'elle est ensuite enseigner, penser, disséquer, analyser. Il y a ça aussi qui peut éloigner parfois les jeunes du texte, d'un texte, ou les plus âgés. C'est l'idée qu'ils ne vont pas tout comprendre, par exemple. Quand vous écoutez, vous avez moins cette humiliation, peut-être que le mot est fort, mais cette gêne.
Cette exigence aussi.
De ne pas tout comprendre. Et puis vous comprenez aussi grâce à l'autre, grâce au ton et à la voix de l'autre.
J'aimerais aussi qu'on évoque la traduction, Valérie Zenati, car la lecture à voix haute, sans doute, n'a pas le même visage selon la langue qu'on parle. Voici un extrait d'un roman d'Aaron Appelfeld, lu par Laurent Natrella. Et on entend la traductrice, c'est vous, Valérie Zenati. Elle chuchote le texte en hébreu.
J'avais parfois l'impression d'être porté dans le noir ou d'avancer en titubant. Apparemment, je ne saurais jamais ce qui m'est arrivé durant ces jours de sommeil. Hormis le timbre d'une voix qui s'adressait à moi, le goût du pain que l'on fourrait dans ma bouche, et à part ça, le brouillard. C'est ainsi que je suis arrivé là. On a relevé les bâches. Des gens et des ballots se sont déversés.
Anachno ben Napoli.
Naples. On clamait les chauffeurs des camions. Le ciel était très haut. Le soleil brûlant se noyait dans la mer. La lumière était aveuglante.
Le garçon qui voulait dormir, extrait d'un spectacle en hommage à Aaron Appelfeld créé à la Maison de la Poésie à Paris et qui continue depuis à tourner. Valérie Zenati, que change la langue employée quand il s'agit de lire à voix haute?
Alors là, on a voulu justement, pour rendre hommage, faire résonner le texte à la fois dans sa langue originale, en hébreu, en français et en musique aussi, pour lui donner une sorte de tessiture particulière. Et alors, c'est un passage d'ailleurs dans... Enfin, votre question me fait penser à un passage du du livre de Maëlys de Clerengal que je suis en train de lire, sur les différences de voix, de tessiture, de tonalité dans des langues différentes. Moi, je sais qu'en hébreu, je n'ai pas la même voix qu'en français. Je la place tout simplement autrement, module autrement.
C'est stupéfiant quand on y songe.
Alors, il y a d'abord le fait que les sons ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que physiquement, il ne se passe pas la même chose. Quand je parle français, quand je parle hébreu, l'air ne passe pas au même endroit. En hébreu, il y a des lettres beaucoup plus gutturales, donc on est plus vers la gorge. Et donc, je pense même que l'expression du visage change, puisqu'on ne fait pas appel aux mêmes, aux mêmes muscles et aux mêmes sons, tout simplement. Et puis, chaque langue a sa musique qui est dictée par une syntaxe et qui n'est pas la même en hébreu et en français. Donc, à l'arrivée, on a tous des voix différentes.
Alors, quand l'un de vos romans est lu devant un public ou sur un audiolivre, Valérie Zenati, finalement, il change autant que lorsqu'il est traduit dans une langue étrangère.
Il change autant ou je le reconnais autant. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance justement d'avoir mon livre Jacob lu par un comédien de la Comédie Française, Éric Genovese, qui a fait le livre audio et où j'ai eu non pas le sentiment d'entendre ma voix, mais d'entendre une sorte de lame de fond qui était celle de ma voix. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir me lire en hébreu, traduite par quelqu'un, par Rama Yalon en Israël. Et de là aussi, d'une certaine manière, reconnaître ma voix. C'est une sensation très étrange parce que ça me donne toujours le sentiment que je me vois de dos dans la rue, que je me redécouvre. Et donc, oui, c'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Pour reprendre un célèbre poème.
Maëlys de Clerengal, en effet, dans la nouvelle centrale de votre dernier livre, Canoë, cette nouvelle s'appelle Mustang. On est au Colorado avec une Française qui s'y est installée. Elle vit aux États-Unis quelques mois, donc avec son fils et son compagnon. Elle a du mal à s'adapter, mais son compagnon, lui, il est comme un poisson dans l'eau. Et vous écrivez que sa voix, à lui, change. Le timbre, la tessiture, y compris quand il parle français. La langue que l'on parle a donc des effets sur la voix, Maëlys de Clerengal.
Oui, je dirais, c'est un petit peu comme l'a dit Valérie. Enfin, c'est pas les mêmes muscles qui s'activent sur le visage. Donc, en plus, la personne change. Enfin, quelqu'un que vous connaissez qui se met à parler dans une langue étrangère et qui l'incorpore totalement. Toute sa personne change, son visage, son faciès, on va dire, change. Et puis, souvent, c'est une autre personne parce que la voix est quand même ce que l'on a peut-être de plus en propre, de plus irréductible, de plus singulier. Même si notre voix change, notre voix est ce qui nous distingue. On est toujours sidéré quand on réalise qu'il y a peut-être 7 milliards et demi et 8 milliards de voix distinctes sur Terre. Et en fait, ce qui est encore plus sidérant, c'est que je repense à ce que vient de dire Valérie, c'est que précisément notre propre voix, en revanche, celle qui nous distingue de toutes les autres, on la connaît pas. C'est-à-dire, évidemment, on ne s'entend pas parler. D'où le trouble de lecture où il y a le retour, en fait, ce fameux retour sonore dans la sonorisation d'une voix avec le micro, etc. Et puis, le retour, et même à la radio, parfois, avec le retour, on entend sa propre voix. Et c'est tout d'un coup, il se passe autre chose, parce qu'il y a cette fameuse dissociation. Personne ne connaît, en fait, la voix par laquelle il est perçu et distingué d'entre tous. Et ça, c'est une expérience assez incroyable, d'autant que souvent, on n'aime pas sa propre voix.
Souvent, oui.
On est à l'aise, on dit « Ah là là, mais c'est horrible, c'est moi qui parle comme ça, au secours, etc. »
Le répondeur est une expérience traumatisante.
Oui, il y a une espèce de dissociation au cœur de chacun, au cœur de nous-mêmes, qui se passe par la voix. Et je pense que le fait de parler une langue étrangère accuse cette idée de dissociation. Tout d'un coup, quelqu'un que vous connaissez très bien, de manière très intime, vous l'entendez parler dans une langue étrangère, et finalement, c'est une autre personne.
Maëlys de Clerengal, j'ai été particulièrement touchée dans votre dernier livre par la nouvelle qui s'appelle Nevermore. Je rappelle que c'est un recueil de nouvelles, mais que vous présentez vous comme un roman en pièces détachées, parce que toutes les nouvelles sont connectées entre elles. Et il y a cette histoire de lecture à voix haute, un poème d'Edgar Poe, traduit par Baudelaire, Le Corbeau, qui est lu par le personnage, la narratrice de cette nouvelle, devant un micro. Qu'est-ce qui se joue dans cette lecture ?
Ben justement, ce qui va se jouer, c'est qu'elle va avoir accès à sa propre voix, et elle va s'entendre comme si elle était une autre, elle va s'entendre comme une autre, et c'est exactement ce que vous venez de dire, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une étrangère, une inconnue, qui est là dans le studio avec elle, et qui est celle qui porte cette voix. Et en plus, cette voix qu'elle va découvrir, et que l'on va découvrir au cours de la nouvelle, est une voix qui a un traumatisme, qui a un accident, qui a finalement une empreinte cachée, enfin qui se révèle justement par la sonorisation, parce que un micro, précisément, voilà, c'est comme un cobra royal au début du texte, et puis après c'est cet ami qui ne vous fait pas de cadeau, qui vous entend au plus proche, au plus près, la moindre occlusion, le moindre souffle, la moindre hésitation, le micro la restitue et parfois l'amplifie. Donc il est comme un ami qui ne vous fait pas de cadeau, et cet ami-là va lui faire entendre aussi cette espèce d'encoche, cette espèce d'entaille qu'elle a sur une de ses cordes vocales, parce que les cordes vocales peuvent conserver assez longtemps la trace d'un forçage vocal, peut-être lié à un cri de terreur, qui peut, ouais, les traumatismes que l'on a connus dans sa vie peuvent avoir leur empreinte, enfin peuvent faire empreinte sur une corde vocale. Et en fait, le texte littéraire qui par ailleurs, ce texte assez mystérieux et incroyable du corbeau, d'un oiseau donc qui parle, et il y a beaucoup d'oiseaux dans ce recueil, voilà, ce texte d'Edgar Poe se mêle, s'entrelace complètement à cette découverte.
Et elle a la voix de cette personne ressemble à un canoë. J'aime beaucoup cette image.
Canoë clair sur océan sombre.
Voilà, canoë clair sur océan sombre. On reçoit beaucoup de témoignages d'auditeurs et auditrices, Valérie Zenati, pour nous dire qu'ils se font la lecture en couple, des hommes, des femmes qui lisent le soir des livres à leur conjoint, conjointe. On ne saurait trop recommander de faire pareil, chacun chez soi.
Oui, 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 parce que la lecture, c'est une intimité aussi. Et donc, partager cette intimité avec quelqu'un que l'on aime. Moi, dans un tout autre genre, je faisais la lecture à voix haute à ma grand-mère, parce qu'elle ne savait pas lire, elle avait été seulement un an à l'école, et donc entre 6 et 7 ans, mais elle adorait que je lui lise des livres. Je me souviens qu'elle avait une passion pour Zola, et donc je lui lisais des livres de Zola
à voix haute, en entier,
et donc c'est voilà, une autre forme d'intimité, mais c'est un partage très très grand, et je lui rendais ce qu'elle m'avait donné, parce qu'elle, en revanche, elle ne savait pas lire, mais elle m'a raconté énormément d'histoires lorsque j'étais petite, et je dis souvent que mon amour des mots vient de cette oralité de ma grand-mère et du corps de ma grand-mère contre le mien lorsqu'elle me parlait de son enfance et qu'elle faisait surgir des images extraordinaires.
Quel est le plus beau souvenir, le roman que vous avez lu à votre grand-mère et qui vous a marqué à jamais?
C'était Nana.
Cela donc.
Oui, voilà, tout à fait.
France Inter, l'été comme jamais.
Valérie Zenati et Maïlys de Kerangal sont mes invités. Nous avons parlé lecture à voix haute. Le sujet a été trop vaste, mais l'émission approche de sa fin. J'ai une dernière question à vous poser. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, Valérie Zenati.
Alors moi, j'ai le sentiment de changer d'avis en permanence. Non pas parce que parce que tout simplement, le définitif m'inquiète beaucoup, et plus j'avance en âge, et plus les avis définitifs me semblent peu intéressants. Et je pense que c'est plus intéressant de changer d'avis en fonction de l'expérience, de l'existence. Mais comme on m'a posé cette question, j'ai réfléchi, je me dis que assez tôt, enfin non, peut-être pas si tôt que ça, mais j'ai changé d'avis un jour sur une sorte de phrase comme ça qui était répétée et qu'on répétait beaucoup dans les années peut-être 70, je sais pas. C'était « il faut souffrir pour être belle ».
Ah, oui.
On disait ça aux filles.
Souvent féminin,
étonnamment.
Ça aux filles.
Ah oui, on disait absolument pas ça aux garçons. Et c'était comme ça, c'était une phrase qu'on entendait un peu partout, « il faut souffrir pour être belle ». Et donc, je sais pas, mettre des écharpins de 12 cm et se déformer les pieds et je sais pas, et s'épiler en souffrant et des choses comme ça.
L'affaire.
Et je crois que cette injonction que j'entendais était une vérité qui était un peu admise. Et puis un jour, grâce à une jeune génération qui est là, je me suis totalement révoltée contre cet avis.
Non, il ne faut pas souffrir pour être belle. Même question, Maïlys de Kerangal. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Alors moi, je dirais que j'ai beaucoup changé d'avis sur le matin très tôt. C'est-à-dire que je suis de plus en plus matinale et je valorise et cette espèce de moment un peu brouillon du lever que j'aimais pas trop. est devenu au contraire quelque chose de beaucoup plus festif et
moins douloureux,
quelque chose que j'attends, ouais. Et ça, alors c'est une espèce de conversion. Je vois je me lève de plus en plus tôt. Et l'été est totalement propice à ce changement-là. Et j'ai changé d'avis parce que j'ai longtemps, prétendu aussi que ce qui était important, c'était le soir et la nuit. Le matin, c'était pas tellement grave de le rater. Et là, maintenant, je vois bien que c'est le matin qui se met à compter. Je passe du côté du matin et du matin très tôt.
Voilà.
Et c'est un grand changement, en fait. C'est un très grand changement.
Longtemps, elle s'est levée tard. Désormais, elle se lève de bonne heure. Merci beaucoup. Canoë, c'est le titre du dernier livre de Maëlys de Kerangal chez Vertical, un recueil de nouvelles qui sonde la voix humaine et ses mystères. Vous serez au Festival des Correspondances de Manosque fin septembre. Valérie Zenati, tous les livres d'Aaron Appelfeld que vous avez traduits en français sont disponibles aux éditions de l'Olivier, tout comme votre premier roman qui vient d'être réédité, En retard pour la guerre. Et puis je recommande aussi l'épisode d'Oli que vous avez écrit. Oli, c'est le podcast de France Inter qui raconte des histoires aux enfants. Constance veut changer le monde, c'est le titre de cet épisode. Merci beaucoup mesdames, très bonne journée à toutes.
Merci.
Les deux.
Merci.
Et à bientôt sur France Inter. Dans un instant, place à la philo avec Charles Pépin, sous le soleil de Platon.